Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre de Radio IMO, en partenariat avec Agence Réunie, Crédit Advisor, Promi et Opinion System.
Il est exactement 8h02. Alors ça, c'est la finesse de l'Extrême-Orient. N'est-ce pas, Johanna?
Oui, on est bien niveau timing ce matin. Et c'est plutôt pas mal parce que ça va nous laisser tout le temps d'accueillir et de découvrir. J'ai failli dire de cuisiner, mais je vais lui faire peur. Notre grand témoin du jour, Loïs Bourdigue, le directeur général de Priceable France. Vous êtes un lefto ou pas?
Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ni un lefto, ni un couche-tard.
On vous a un peu fait tomber du lit ce matin?
Non, ça va. C'était l'horaire habituel. Il fallait partir tôt, mais c'était l'horaire habituel.
Bon, c'est déjà ça. Déjà, vous ne nous en voulez pas pour ça. Vous allez nous en vouloir pour plein d'autres trucs, vous verrez. N'est-ce pas, Sylvain?
Oui. Non, mais ce ne sera pas pénible pour lui. C'est surtout pour sa réputation. Comment perdre tous ses clients en une heure? C'est extraordinaire. Non, on le charrie. Alors, du coup, on lui met la pression, là, comme ça. Bon, en tout cas, on est ravis de l'avoir, notre breton national. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis un fan de Bretagne. On en avait déjà parlé, il me semble, peut-être.
Je crois qu'on en avait déjà parlé.
Ouais.
La connexion bretonne est...
Ouais, j'ai passé cet été entre Pléneuf, Val-André, dans les Côtes d'Armor, à côté aussi d'Erquy, avec les fameuses coquilles Saint-Jacques d'Erquy. J'ai passé toutes mes journées sur le bateau, à pêcher, de la dorade grise, du taco... du lieu jaune que j'ai bien cuisiné, voilà.
Vous êtes meilleur pêcheur que moi, alors.
J'adore la Bretagne. Alors, vous êtes plutôt, dans vos origines, plutôt dans les terres ou plutôt...
Plutôt Bretagne Sud, à 2 km de la mer, donc vraiment le...
Ah oui, quel endroit?
Donc, dans le pays Bigoudin, pas loin de Plozévette.
Ah, pas mal. Toujours un ancrage dans la région?
Toujours un ancrage très fort dans la région. Oui.
Avec une maison de famille?
Alors, avec les parents et on va presque dire la maison de famille dans le pays Bigoudin.
Ça veut dire que vous y allez tous les combien?
Alors, un petit peu moins avec le Covid, ouais. Mais on essaie d'y aller tous les 2 mois, tous les 3 mois pour prendre un peu l'air.
Ah, c'est génial. Une fois qu'on est... Enfin, je sais pas, mais la Bretagne, elle a un effet sur les gens absolument incroyable. Enfin, moi qui viens plutôt du côté de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord, quand on a découvert la Bretagne, c'est absolument exceptionnel. Et quoi qu'on en dise, le climat n'est pas si mauvais que ça. Voilà.
En fait, il y a des climats, il y a des Bretagnes, c'est ça qui est intéressant. Et on en découvre, par exemple, le Nord-Bretagne, je ne connais absolument pas. J'y suis allé 4 ou 5 fois, mais je connais très peu le Nord-Bretagne. J'ai découvert avec ma femme le golfe du Morbihan, qui est un endroit absolument magnifique. Donc c'est vraiment des Bretagnes et des ambiances, des climats.
La région que vous connaissez bien sûr le plus, c'est celle où vous êtes. Est-ce que le fait d'être face à la mer, on a un rapport différent vis-à-vis de la mer, l'Atlantique, la pêche, la qualité de vie? Parce que bon, vous n'êtes pas super, vous n'êtes pas pêcheur, vous. Hein.
Alors je pêche, mais je pêche peu.
Bon, vous pêchez peu. Est-ce que vous naviguez?
Je ne navigue pas. J'ai pas eu cette la zone dans laquelle j'ai grandi se prête assez peu à la navigation. Donc j'ai plutôt fait beaucoup de surf dans ma jeunesse.
Ah quand même. Bon, justement, on parlait de surf. Bon, non, mais pas celle de. Effectivement, parce que nous étions chez nos amis de 6e sens pour le Tour de France de l'immobilier. Avec le Figaro, oui, on est allé chez Nicolas Gagneux qui avait acheté la vraie planche originale du film Rise the Nice. Il faut dire que dans ce film-là, le surf, ce n'est pas exactement son truc. Alors, qu'est-ce qui attend notre invité, Johanna?
Eh bien, plein de choses. On a déjà écouté un premier titre que vous avez choisi, Frank Sinatra. On va revenir dessus dans quelques secondes. Nous aurons également 3 témoignages à votre propos. L'horoscope chinois, évidemment, qui arrivera, ce sera en deuxième partie d'émission. Et puis, nous allons profiter de cette heure pour vous découvrir, pour également évoquer Priceable. Avant qu'on fasse tout ça, Frank Sinatra, pourquoi ?
Alors Frank Sinatra parce que tout simplement ça donne le sourire le matin et c'est une des chansons que je chante à mon fils le soir pour l'endormir, donc c'est vraiment un petit sourire et un petit rayon de soleil le matin dans cette période un peu ce début d'hiver.
Quel âge a-t-il?
Il a tout juste un peu plus de 2 ans.
Un peu plus de 2 ans. Un seul enfant?
Un seul enfant.
Bravo, il s'appelle comment?
Il s'appelle Anatole.
Anatole. Et votre épouse s'appelle comment?
Camille.
Camille, elle nous écoute?
Probablement pas, elle part au travail. Là.
D'accord, ok. Bon, elle va réécouter le podcast.
Très probablement.
Camille, si vous nous entendez, une petite chanson pour le petit Anatole. Ça peut être très sympa. Bon, en tout cas, on est ravis d'être avec son papa, Loïs. Exactement. Hein, j'ai bien dit là.
Parfaitement.
Loïs. Alors, justement, Loïs Bourdic. Alors, il nous vient tout droit du pays Bigoudin, avec une enfance plutôt intéressante, puisque vous avez beaucoup voyagé, apparemment.
Alors, j'ai eu la chance, ouais, de grandir à l'étranger voilà. sur les 10 premières années de ma vie.
Alors, des lieux improbables. Hein.
Des lieux improbables, alors, en effet.
Improbables, parce que vous allez aux Seychelles, c'est ça, hein ?
C'est ça.
Alors, magnifique, lumineux, superbe. Extraordinaire. Du genre, il y a des lagons, du genre, il y a la mer, du genre...
Alors, pas trop de lagons, mais il y a une mer très...
Voilà, magnifique, turquoise...
Tout ce qu'il faut.
Carte postale, voilà.
Comme dans le pays Bigoudin.
Voilà, donc le kiff complet.
C'est ça.
Et après, on va à Roumanie.
Qui est un pays également qui...
C'est moins bien.
C'est un autre état d'esprit, mais c'était une expérience aussi très, très enrichissante.
Tu trouves pas ça génial? Je vais aux Seychelles, c'est cool. Puis après, je vais en Roumanie. En Roumanie où? À Bucarest?
Bucarest même.
Lié aux fonctions des parents, je sais pas.
Exactement. Mon père travaillait dans le développement international. Deux projets à l'international, donc dans le développement, comme avec un grand D, comme la France aime à le dire, donc soit dans le développement de projets de tourisme, de projets sociaux, de projets poussés par l'Union européenne.
Donc le papa qui a plutôt une formation académique très poussée comme vous ?
Une formation académique, oui, dans le marketing initialement, mais...
Il n'a pas fait Polytechnique, lui ?
Il n'a pas fait Polytechnique.
Il a fait HEC ?
Non plus.
Le SEC ?
Ni l'une ni l'autre.
D'accord, il avait... D'accord, ok. On saura ou pas ?
Une formation en marketing.
Voilà, une formation en marketing. Alors, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez un look de premier de la classe ?
Parfois, ça a peut-être pu arriver. Après, ça dépend dans quelle classe vous êtes. on est toujours le premier d'une classe, mais...
Il est bon, il faut dire la vérité.
Ah, là, il est excellent.
Il faut dire la vérité, il est bon. Alors, donc, effectivement, enfin, bon, en même temps, soyez honnête, vous avez... plutôt bien percuté aux études, on peut le dire ou pas ?
Je m'estime chanceux là-dessus d'avoir pu percuter, avoir eu un parcours.
À l'école, ça se passait bien.
Ça se passait plutôt bien.
Quand on interroge les parents, vous étiez un garçon gentil, adorable, serviable.
Tout ce qu'il faut.
Bonjour papa, merci maman, papy, tonton.
Ça dresse le portrait. Là.
Voilà, très sympa, très soigneux vis-à-vis de sa famille, extrêmement sérieux, mais pas si sérieux que ça, parce que quand il part en vrille, il s'amuse plutôt bien, le Loïs, hein, quand même. Mais quand même, une belle ossature qui l'a amené dans une école militaire, quand même. Hein, ça l'a amené à Polytechnique, où il en sort avec un grade de lieutenant. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous étiez major de promo, mais à mon avis, vous étiez quand même dans les premiers.
Malheureusement pas.
Mais si.
Mais non.
Combien vous étiez dans votre promo ?
Excellente question, mais je devais être dans le ventre mou de la promo.
L'essentiel, c'est d'y être.
Exactement.
Parce que le plus dur chez Polytechnique, ce n'est pas de finir, mais c'est d'y entrer. On est d'accord ou pas ? Bon, en plus, c'est la seule école de France, une des seules écoles de France, l'école militaire, vous savez, où on est salarié. On touche des sous. Touche, je crois, 1500 euros par mois.
Non, un petit peu moins, c'est de l'ordre de 800. Alors, c'était de l'ordre de 800 euros et ça, je crois que ça a récemment pas mal évolué sur...
Ceci dit, vous êtes, l'intégralité de la scolarité est prise en charge.
Tout à fait. Et c'est une des forces et c'est une des grandes chances qui est donnée à l'école polytechnique par rapport à d'autres écoles.
Absolument. Vive la République. Oui, c'est la République.
C'est ça, votre brillant.
Vive la République, vive la France. Votez pour moi. Alors, justement, non, mais c'est vrai, l'école polytechnique, elle a été créée pour permettre l'égalité sociale devant l'éducation. Vous êtes d'accord là-dessus ?
Tout à fait.
Parce qu'il y a des personnes de tous les horizons qui font polytechnique.
Dans les faits,
oui,
on...
Oui, dans les faits, oui. D'accord.
Voilà. Après, il y a les faits et on est... l'école polytechnique, comme toutes les écoles, est confrontée à des problématiques de mixité sociale, de mixité tout court.
Et là aussi, bien évidemment, on n'échappe pas aux phénomènes sociologiques, donc de gentrification.
Qui sont extrêmement puissants, extrêmement profonds.
Où la puissance engendre la puissance, la naissance, la naissance. Et on a représenté, effectivement, puisque au XVIIe et XVIIIe siècle, on a remplacé les privilèges de la naissance par les privilèges peut-être de la finance et des personnes qui se reproduisent, etc. Mais quand même, on observe aussi, puisque Polytechnique, Sciences Po, a créé des passerelles, par exemple, vers la Seine-Saint-Denis, pour permettre l'émergence des talents. C'est déjà pas mal, mais effectivement, lutter contre ça, c'est aussi un enjeu. Alors, c'est intéressant, parce qu'après, vous êtes intéressé on va dire, avec un côté peut-être un peu matheux quand même.
Complètement matheux.
Complètement matheux, mais très sympa. Un matheux sympa et qui parle un langage clair, parce que moi, ce que j'ai bien aimé, on vous a interviewé quelques fois, bah, j'ai compris ce que vous faisiez. Voilà. Mais c'est vrai, j'ai compris ce que vous faisiez. Et donc, c'est intéressant, parce qu'il y a des matheux qui ne savent pas expliquer. Il y a beaucoup de matheux, comme vous savez, qui ont des effets sédatifs sur les gens, ce qui n'est pas votre cas, parce qu'il est très souriant, donc c'est agréable. En plus, on le voit à l'image, donc c'est très bien. Alors, justement, Loïs, plus exactement, vous êtes interrogé à la morphologie urbaine, vous êtes interrogé sur les datas, donc c'est intéressant, parce que vous avez une vision macro de la ville, de ce que représente la fabrique de la ville. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous a amené à entrer dans le monde des bisounours, c'est-à-dire de l'immobilier. Franchement, je déconne. Parce que le monde de l'immobilier est tout sauf des bisounours. On est d'accord, Johanna ?
On est d'accord.
On connaît bien, hein, Johanna. On connaît très, très bien. Grande famille de l'immobilier. Et donc, vous êtes rentré chez Price Hubble. Ça fait 4 ans déjà.
Un petit peu moins de 4 ans, oui.
Un petit peu moins de 4 ans. Et vous en êtes le patron France.
Exactement.
Combien vous êtes maintenant ?
Alors maintenant, on va dépasser très prochainement, probablement lundi ou mardi prochain, la barre des 80 personnes.
En France ?
En tout. En tout, France, on doit être une vingtaine. Après, notre spécificité, c'est qu'on a... nos équipes, en fait, françaises travaillent également sur les problématiques japonaises, sur les problématiques anglaises. Donc, en fait, le gros sujet d'une boîte en croissance comme nous, c'est vraiment de recruter les talents dans des segments qui sont extrêmement concurrentiels. La data.
Data scientist.
Des ingénieurs, data scientist, data engineer, ingénieur, infrastructure, etc.
On en trouve de ça en France ?
Alors, comme partout, c'est compliqué. On va dire que c'est moins compliqué qu'en Suisse ou en Allemagne. Donc, on a une grosse partie de l'équipe.
Moins compliqué qu'en Suisse ou en Allemagne. Pourquoi ?
Parce qu'il y a une formation très forte. On parlait des écoles d'ingénieurs tout à l'heure. Il y a une formation très forte en maths sur la France. Et les écoles d'ingénieurs en France ont su prendre le tournant il y a 4 ou 5 ans. Vers le côté data engineering et data science. Donc là, maintenant, on arrive vraiment à recruter sur la France des profils typés data science et data engineering, ce qui est une force sur la France. Et c'est un des volets vraiment sur... Et c'est pour ça qu'on s'est déployé très rapidement sur l'équipe de data en France, même si, encore une fois, ces équipes travaillent sur les algorithmes japonais, les algorithmes autrichiens, etc.
Alors justement, on va essayer de vulgariser un maximum. Price Hubble, en deux phrases, c'est quoi ?
Alors, Price Hubble en deux phrases. J'ai vraiment deux phrases. Je vais même essayer de le faire en une.
Bravo.
On développe des solutions d'estimation et d'analyse immobilière pour tous les professionnels de l'immobilier sur toute la chaîne de valeur.
Y compris l'ancien.
Surtout de l'ancien. Surtout de l'ancien.
Ça veut dire quoi ? C'est une réplique de Meilleur Agent ?
Pas du tout, parce que Meilleurs Agents, c'est une solution qui vise les particuliers, donc en offrant un service d'estimation aux particuliers et qui monétise avec les agents immobiliers. Donc c'est un business model immobilier, en fait. Notre positionnement, c'est de se dire, on développe les briques technologiques et les solutions d'estimation et d'analyse qui vont pouvoir équiper tous les professionnels de l'immobilier sur la chaîne de valeur, l'agent immobilier, l'expert immobilier, le notaire, le banquier ou l'assureur.
Un exemple concret ?
Alors, un exemple.
C'est un
abonnement, tout simplement. Typiquement, okay. Je vais prendre l'exemple d'Orpi, par exemple.
Ouais, un abonnement, voilà.
Un abonnement sur nos solutions d'estimation. Donc, quand vous allez sur le site Orpi, vous faites estimer mon loyer et Price Hubble est derrière l'estimateur Orpi.
Donc, en fait, vous fournissez un outil d'estimation professionnel.
On fournit des outils d'estimation, mais non seulement des outils d'estimation, mais des outils beaucoup plus avancés d'études de marché. Donc, en fait, on leur permet de, soit s'ils sont un promoteur, un investisseur, un bailleur, de faire leur étude de marché, donc d'analyser les comparables, les dynamiques, les permis de construire, tout ce qui a pu se passer sur le marché. Donc, en deux clics, ils ont vraiment accès à toute la profondeur et tout ce qui se passe sur le marché pour prendre une décision sur un prix ou sur un loyer pour un bien ou pour un immeuble. Et si c'est un banquier, un courtier, un CGP, un agent immobilier, leur sujet, c'est plutôt de tourner leur écran vers le particulier et de leur donner la transparence sur le marché pour être le tiers de confiance sur le
donc
sujet immobilier.
Donc, je ne vais pas sur Price Hubble, je suis sur mon site Internet dans lequel il y a un moteur de calcul, enfin, je caricature, je n'ai pas la terminologie qui va bien, mais en fait, c'est vous qui êtes derrière.
Exactement.
Vous fournissez à la fois l'outil et la donnée.
Alors, on n'est pas un fournisseur de données en tant que tel, on ne vend jamais de la donnée, on vend vraiment, excusez-moi du terme anglais, on vend de l'insight, c'est-à-dire de la donnée analysée, consolidée et qu'on a rendue actionnable. Donc, ça va être un estimateur, donc vous avez besoin de calculer un loyer ou un prix chez vous, au sens chez vous, bailleur, investisseur, foncière.
Mais il ne sait pas le faire
ou, alors, ils savent le faire, mais ils le font historiquement avec des méthodes un peu souvent assez manuel et
oui,
c'est chronophage.
Ils excellisent quoi.
Et c'est, voilà, et c'est pas systématique. On travaille avec des grands noms de l'expertise immobilière, Foncia Valorisation par exemple, où eux leur sujet, j'ai des très gros portefeuilles analysés. Alors oui, ils peuvent le faire à la main. Les 80.
Experts en quoi? Expert, quand vous dites, parce que Foncia Valorisation, ce n'est pas un expert.
Alors,
ils font de l'arbitrage d'immeubles.
Oui, mais avant de faire de l'arbitrage, vous faites une expertise.
Un bon expert, c'est quoi? C'est Galtier, par exemple.
Quand je dis expert, c'est qu'avant, typiquement sur Foncia Valorisation, vous faites une expertise immobilière pour connaître la valeur de l'actif et ensuite dérouler vos arbitrages, dérouler vos stratégies pour compte de tiers, en l'occurrence.
Mais par exemple, quand on a recours à un expert comme Galtier, par exemple, ou Roux, par exemple. Vous vous superposez ou vous,
alors,
ou vous vous complétez?
C'est ça notre spécificité, c'est qu'on ne vient pas, comme certains, essayer de venir remplacer l'expert immobilier, de venir remplacer l'agent immobilier, de venir remplacer cet acteur de l'immobilier, mais plutôt de l'équiper avec une solution, de la même façon qu'il y a 20 ans, il s'équipe avec Excel, là, il s'équipe avec Priceable, et ça leur permet de... Je prenais l'exemple de l'expertise immobilière avec l'exemple de Foncia Valorisation, d'automatiser 80-90% du travail, qui est du travail chronophage, qui est du travail manuel, et en fait de concentrer leur expertise, leur savoir-faire et leurs ressources sur les 10-20 derniers pourcents pour affiner l'expertise, tamponner, dérouler la stratégie. Donc c'est vraiment le automatiser et accélérer. Tout
le Priceable, c'est un site, enfin, c'est pas un site pour les particuliers, c'est 100% B2B.
C'est 100%
et d'ailleurs,
B2B.
On voit pas la marque Priceable pour le particulier quand il voit les estimations en ligne, etc.
Non.
C'est très très clair. Je vais vous citer quelques noms d'entreprises. Est-ce que par exemple des sociétés comme Cityscan, concurrent ou pas?
Alors, c'est une solution qui fait également de
quel foncier, quel quartier?
Alors, quel foncier, quel quartier? Ils sont plutôt en amont de la chaîne, enfin de la chaîne de la promotion immobilière sur l'analyse des fonciers, l'analyse des cadastres, les faisabilités, etc. Donc, c'est des solutions, et souvent les pointeurs nous disent que c'est des solutions assez complémentaires sur la chaîne de valeur. Cityscan, c'est plutôt un outil de visualisation et d'analyse des couches et de l'environnement du bien. Nous, notre focus, c'est vraiment l'estimation et l'analyse marché. Donc, vraiment donner cette...
Comment vous agglomérez, vous trouvez toutes ces données qui vous permettent de le faire?
Alors, on a énormément de sources. Et je parlais de toutes nos équipes de data. Une grosse partie de l'équipe data science, data engineering, data acquisition travaille là-dessus. C'est sur collecter le maximum de données, soit de la donnée publique. Donc là, en France, par exemple, on est plutôt content. On a énormément de données très bien structurées qu'on peut consolider, de la donnée qui est disponible sur les différents portails immobiliers, de la donnée des notaires via pour ceux qui connaissent la base demande de valeur foncière, donc qui sont les données qui sont remontées par les notaires à Bercy. Donc finalement, on met la main et on met dans les tuyaux toutes les données qui ont rapport de près ou de loin avec les marchés immobiliers.
Et en termes de qualité, vous approchez vraiment les choses, c'est hyper quali.
Alors, c'est tout notre sujet, c'est d'être suffisamment qualitatif en termes de données et en termes de précision d'estimation immobilière, prix, loyer, pour être utilisé par des institutionnels.
Est-ce que vous êtes un outil d'aide à la décision?
Ah bon, on se positionne clairement comme un outil d'aide à la décision, notamment pour la partie promoteur, bailleur, investisseur, foncière, etc.
Maîtrisez pas mon sujet. Bravo. Alors justement, on s'est intéressé à votre parcours aussi et on a, je crois, interrogé une personne qui bosse avec Loïs.
Exactement, puisqu'on parle de Priceable, on va y rester. On va écouter Alexis Radjevi qui, je crois, est votre directeur commercial, c'est bien ça?
Exactement. Qui
il ne vous a pas dit ce qu'il disait sur vous?
Ah
quand
non,
même.
Non, c'est la surprise.
Ah, alors ça veut dire que ça va être une bonne surprise.
Mais je le vois dans une heure, donc ça va.
Bon,
au pire,
bon, il nous écoute, Alexis, ou pas?
Probablement.
Bon, il a intérêt à nous écouter quand même, pas déconner non plus. Bon, on va voir, il va vous faire la surprise certainement, parce que j'espère que dans une heure, ça va bien se passer pour lui.
Et c'est une petite surprise signée Nicolas Tarade.
Alexis, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre première rencontre, la première fois que vous avez vu Loïs Bourdic, Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Alors, on s'est rencontrés à l'été 2018. À l'époque, Priceable venait d'ouvrir en France. Et Lloyd cherchait un directeur commercial à cette époque et j'ai rencontré une personne très inspirante, un manager à l'écoute et j'étais emballé par l'opportunité.
Une belle rencontre, une belle histoire. Est-ce que vous en avez justement des petites histoires, des petites anecdotes qui sortent de l'ordinaire ou pas d'ailleurs à nous raconter, à nous faire partager?
Ouais, il y en a une que je raconte souvent, c'est j'avais réussi à obtenir un rendez-vous dans une grande institution financière et avec Lloyd, on se regardait et on disait que on avait pas énormément de choses à leur présenter, on était vraiment au début sur de nouveaux cas d'usage et on y allait avec une présentation, Lloyd sûr de lui à présenter des slides comme si c'était une belle application déjà fini et je me rends compte 2 ans plus tard que ce produit qu'on avait présenté sur un slide dans un PowerPoint aujourd'hui est l'un de nos meilleurs produits. Donc c'est une belle réalisation, une belle aventure de voir que de quelque chose qui était hypothétique où on savait pas trop où on mettait les pieds, aujourd'hui c'est devenu un vrai succès.
Fallait y croire dès le début.
Exactement.
Alexis, je vais vous laisser le micro, vous le savez, pour cette dernière question. On est vendredi matin, c'est le Mac de Limo. Lloyd est à nos côtés, il vous écoute en ce moment même. Est-ce que vous auriez un message peut-être à lui faire passer? Je vais vous laisser le micro, il vous écoute, je vous en prie.
Lloyd, je pense que là, ça va être un peu compliqué avec l'hiver, mais l'invitation pour le barbecue, il est toujours là. Donc j'attends fortement l'organisation pour le barbecue Priceable. Avec impatience.
Ben voilà, l'invitation est lancée. Bien écoutez, merci beaucoup Alexis d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin.
Barbecue.
Bah, Alexis a la chance d'avoir une magnifique maison à Orgeval avec un immense terrain sur lequel il nous envoie sur lequel il a passé le confinement et en nous envoyant des photos de barbecue. Donc on attend tous impatiemment le barbecue et les beaux jours.
Alors vous êtes quelqu'un d'aspirant, comme le dit Alexis?
Je suis mal placé pour le dire, mais.
Aspirant. Alors. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question un peu directe? Quand on a la formation que vous avez, ça va bien normalement pour trouver du boulot. On y est d'accord ou pas? Combien de langues vous parlez?
Je parlais allemand il y a une dizaine d'années. Je parlais très bien allemand.
Mais vous le reparleriez si vous deviez le pratiquer à nouveau?
Eh bien, en fait, je n'ai pas parlé pendant 7 ans. Après, j'ai rencontré Priceable et je ne savais plus parler allemand. Et donc, mes associés à Zurich parlent allemand, ce qui est... on pourrait parler allemand, mais malheureusement, je ne parle plus allemand. Je parle plutôt français, anglais.
Anglais, parfait.
Langue de travail chez Priceable. Donc,
alors, justement, Priceable, c'est qui est à l'origine de Priceable?
Alors, Priceable, c'est une vision et un projet qui a été lancé en 2016 par Stefan Heitmann et Markus Stadler, qui sont deux Allemands installés en Suisse. Initialement, dans le métier, donc Stefan notamment, dans le métier du courtage en prêt immobilier, où son sujet, c'était de donner plus de transparence sur le marché à son client final qui venait prendre un prêt immobilier.
En termes de pricing, on est d'accord?
En termes de pricing, mais aussi en termes d'études de marché, oui, en termes de ce que je peux trouver sur le marché.
En termes de pricing, par rapport aux études, effectivement.
Exactement.
Études de marché.
Donc ça a été vraiment le point de départ. Et son constat, ça a été de se dire, donc lui était dans le métier d'une grosse boîte de courtage en prêt immobilier qui s'appelle Money Park. Et lui, son sujet, c'était comment je peux apporter plus de valeur à mon client particulier en lui proposant le bon bien sur le marché, en le conseillant au moment du processus de vente. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution vraiment au niveau pour justement répondre à ces problématiques-là. Et depuis ce point de départ, on a déroulé cette vision de se dire on essaie de construire Priceable comme la solution, les briques immobilières, les briques d'analyse immobilière qui vont venir se brancher derrière tous les professionnels de l'immobilier qui, à un moment ou un autre, de leur parcours client, de leur analyse de marché, de leur analyse de portefeuille, ont besoin d'infos, ont besoin d'éléments pour prendre leurs décisions, pour conseiller leurs clients.
Et donc, est-ce que vous êtes rentré dans le capital de Priceable? Est-ce que vous
Je suis rentré à ce moment-là tout à fait côté donc, parmi les associés de Priceable. Exactement.
Alors, extrêmement intéressant, justement, avec vocation, bien sûr, d'irriguer l'international, bien évidemment.
C'est la vision première. L'idée n'étant pas de rester en Suisse et en France, ça c'était au moment où, j'ai rejoint l'aventure. Depuis, on s'est déployé en Allemagne. On a maintenant un très gros business sur l'Allemagne. On s'est déployé également en Autriche. On a racheté une société autrichienne il y a très peu de temps pour accélérer sur l'Autriche. Et également le Japon pour tester le marché, tester nos solutions sur le marché asiatique, parce que la vision, elle est vraiment internationale. Elle est de se dire que ces briques digitales qui équipent les professionnels de l'immobilier passent à l'échelle, donc à l'international, et on peut finalement, et qu'un Gecina en France a les mêmes problématiques qu'un asset manager au Japon.
C'est clair. Joanna.
Et ça vous l'avez vraiment vu en vous installant au Japon, parce que c'est vrai qu'on imagine, quand on pense le Japon, ces immeubles qui s'entassent, ce marché qui a l'air très tendu, c'est vraiment comme ça ?
Eh bien, c'était le gros pari justement du Japon, c'est de se dire, est-ce qu'on arrive à développer les briques techno et est-ce qu'on arrive à avoir la même solution en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Japon ? Ça, c'était le premier pari. Et le deuxième pari, c'est de se dire, une fois qu'on a le produit, bah, est-ce que ça intéresse quelqu'un ? c'était pas gagné. Comme
non, pari. Non, c'est surtout là-bas. Hein.
Et donc là, le gros succès des 6-12 derniers mois, c'est qu'on a réussi à gagner la confiance et à signer nos premiers contrats au Japon, pas seulement sur un segment, mais sur différents segments, avec des grandes... Alors souvent, les asset managers sont des banques, là-bas, donc avec des grandes banques asset managers, avec des réseaux de CGP, enfin, d'équivalent de CGP au Japon. Donc on a réussi à valider, plus que la preuve de concept, à valider l'intérêt du marché pour nos solutions sur le marché japonais. Donc c'était la grosse réussite des 12 derniers mois.
Plutôt bien joué, hein ?
Pas mal. Allez, gâteau.
Donc si on a réussi le Japon, a priori, on peut déployer la solution un peu partout.
Alors on va enchaîner sur un registre un peu plus personnel. Qu'est-ce qui nous attend, Joanna ?
On a plein de choses qui nous attendent. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'avant, on fasse une petite pause musicale, oui. Même si on ne l'écoute pas en entier.
Voilà, on ne va pas l'écouter en entier, notre ami Théo, de l'autre côté. Alors, voilà, apparemment, vous aimez bien le jazz. Hein. C'est votre truc. Hein.
Surtout celle-là.
Ça, voilà, c'est
9 minutes de bonheur.
Voilà, 9 minutes de bonheur de Charlie Mingus avec
Charles, moi. Charles Mingus avec... Enfin, avec non, d'ailleurs, pas avec. Pour le titre, Monin.
Malheureusement, on ne peut pas écouter en entier. On est soumis à des règles de timing pour qu'on aille au fond. Mais voilà, Charlie Mingus, 9 minutes de bonheur, c'est extraordinaire. Voilà, Charlie Mingus. Joanna, est-ce qu'on passe déjà au chinois ou on passe au deuxième ?
Écoutez, il est prêt. Si vous voulez, on peut attaquer l'horoscope chinois.
Alors, il est né en quelle année, notre ami ?
Il est né en 1987, le 25 mars 1987, ce qui vous fait l'âge absolument canonique de 33 ans.
33 ans, Jésus, Jésus, reviens.
Les deux acharnés à ce moment-là, c'est 27 voilà. ans et voilà. 33 ans. Il faut voilà. faire attention sur ces
deux Jésus, reviens parmi les siens.
Pourquoi voilà. 27 ans, pardon?
C'est tous les chanteurs de...
Ah oui, c'est vrai, effectivement. Mais Jim Morrison, vous ne faites pas de rock,
non.
donc.
Non, j'avais pas de risque.
Ou Jimi Hendrix.
Vous ne risquez rien.
Alors, justement, est-ce que vous savez quel est votre signe astral?
Absolument pas.
Il est né quel jour, exactement?
Chinois, 23 mars.
Chinois.
Signe astral chinois.
Ah, chinois, aucune idée.
Aucune idée. Vous êtes prêt?
Je suis prêt.
On va vous le dire.
Ça va, c'est vachement bien. Vous êtes lièvre de feu.
Pas mal.
Et d'ailleurs, je préciserai que Frank Sinatra également était lièvre de feu.
Est-ce une coïncidence?
Non.
Je ne crois pas.
Francky, sors de ce corps. Alors justement, lièvre de feu, c'est un beau signe.
Oui, c'est un beau signe. Justement, on va développer ça. Je vais vous donner 5 traits de caractère qui sont un peu typiques du lièvre de feu. Et puis vous allez nous dire si ça semble vous correspondre ou non. Le premier, c'est sociable.
Je pense plutôt, oui.
Ah oui, oui, sans aucun doute.
Sylvain est catégorique, donc
il est très gentil, oui. Monsieur Bourdic.
J'ai discret.
Pas tellement. Non, pas tellement.
Ce serait pas un peu compliqué d'être discret dans l'immobilier?
Dans l'immobilier et surtout dans le monde des startups où il faut parfois savoir se forcer à faire un petit peu de bruit, surtout au début, pour prendre la place qu'on va essayer de prendre.
J'ai astucieux.
Ça, pour le coup, oui, je
sans aucun doute. Hein.
Je me fais un plaisir d'aller chercher les bonnes méthodes et les bonnes astuces pour avancer plus vite.
Et perspicace?
Plutôt aussi.
Il faut également hein, quand on est dans la start-up.
Pas mal, hein, comme
le dernier, il est mignon, c'est sensible.
Sensible aussi, bah, oui, j'ai passé Sinatra ce matin.
Y a-t-il un cœur derrière ce polytechnicien? Sans aucun doute. Voilà. Il y a un cœur derrière un polytechnicien, vous savez?
Ah bah oui, ce sont aussi des hommes. On fait la même chose avec des métiers, ça vous va?
Allons-y.
Et en plus, ils sont rigolos. Le premier, c'est antiquaire.
Antiquaire, moi j'étais au Puce de Saint-Ouen récemment et je me suis découvert un...
C'est vrai?
Ouais, c'est vrai, je me suis découvert un goût pour les très belles choses qu'on peut voir à Saint-Ouen.
Alors, pourquoi plutôt des meubles, plutôt des œuvres d'art?
Plutôt des meubles, là on cherche à meubler, le salon, donc plutôt des meubles.
J'ai diplomate.
Diplomate, pas assez, je pense.
Vous n'auriez pourquoi, pas pu faire un bon diplomate?
J'aurais fait un très mauvais diplomate, je pense.
Ouais, je vous ai mis à l'œuvre, hein, quand même.
Ah bon?
Vous saviez que j'étais vice-président de French PropTech, quand même. Je vous ai mis à l'œuvre. Vous êtes plutôt pas mal. Hein.
C'est peut-être un...
Ouais. Alors moi, si vous êtes le premier polytechnicien que j'ai vu qui est un excellent vendeur. Bah, le seul.
Non, j'en connais peut-être plus que vous, mais j'en connais des très bons.
Ah, bon.
C'est sympa bon, pour le reste de tous les polytechniciens. Ah bah,
j'ai effectivement beaucoup, beaucoup navigué, comme je vous le disais, quand j'ai été pendant une petite dizaine d'années magistrat. J'ai souvent fréquenté la maison des polytechniciens. Effectivement, je crois que j'ai rarement... Ça m'a permis d'ailleurs d'éviter de prendre des somnifères le soir, parce qu'ils m'ont fait beaucoup dormir, en général. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà. Donc, vous détonnez un petit peu dans le... Vous attendiez pas, finalement, à être vendeur, quand même, quelque part. Vous êtes un vendeur.
Bah, quand
Alexis, quand il vous dit que vous vous pointez devant les clients, vous faites avec 3 PowerPoint un produit qui, d'ailleurs, n'existait pas encore à l'époque...
Il existe en partie.
Enfin, il existe en partie.
Il existait dans sa tête.
Et vous l'avez vendu du rêve.
C'est tout le sujet. J'ai dit, quand on se lance dans l'aventure d'une...
Vous auriez pu vous planter.
Est-ce que c'est pas plutôt du culot, ça?
Bah justement, c'est l'art de la vente.
C'est de la vente. Et
la conviction.
C'est vrai que quand on commence une start-up, quand on a une formation d'ingénieur très mateuse et... On se lance dans l'univers de la data, vraiment de l'analyse de données pure et dure, mais qu'on veut lancer un business là-dedans, il faut se découvrir soit une passion, soit au moins un peu d'intérêt pour la vente et le...
L'œil, vous le saviez? Vous étiez bon là-dessus?
Je pense qu'à l'époque, j'étais très mauvais là-dessus. Donc c'est quelque chose qui se construit au fil du temps et c'est quelque chose qui s'apprend pour le coup.
Est-ce que ça vous plaît?
Ça me plaît beaucoup, mais je reviens sur comment le... Contrairement à beaucoup de choses, du moins en France, ça ne s'apprend pas à l'école. Même si vous avez fait une école de commerce, vous n'êtes pas un vendeur quand vous sortez d'un école commerce.
En tous les cas, ce que vous nous dites, c'est que ça peut s'apprendre.
Ça doit s'apprendre.
C'est pas une fatalité quand on est mauvais vendeur.
Je ne pense pas. C'est comme les langues. Il faut pratiquer. C'est comme les langues.
Oui, ceci dit, ça s'apparente plus à l'art de la conviction plutôt que à l'art de la vente. Je pense que ce qui vous a... Bon, moi, je vous connais un peu déjà, donc forcément, je suis pas hyper objectif. Mais bon, c'est surtout la conviction qui vous anime. Vous
Bien
croyez
sûr.
Énormément à ce que vous faites. Vous savez, quand on a démarré il y a 5 piges dans notre groupe média, hein, qui n'est pas non plus... on n'a pas la taille de BFM Business, mais on est quand même plutôt pas mal. C'était juste la conviction qui nous animait. Et quel que soit l'âge, puisqu'à l'époque, on avait sorti un petit bouquin avec Olivier, mon associé. À l'époque, j'avais 50 ans. Et j'ai dit, voilà, je monte une start-up, j'ai 50 ans et je vous emmerde. Voilà. Et donc, parce que tu sais, souvent, on a l'impression que les... Voilà, la capuche, le suite, pour le start-upper, tu deviendras start-upper, mon fils. Le baby-foot au centre du bureau, c'est un mythe, on est d'accord là-dessus?
Moi, je me rappelle une petite anecdote là-dessus, où c'était je crois que c'était un congrès RNEI, donc les rassemblements de l'expertise immobilière, où j'avais été invité en 2018, où justement, on avait tout un panel, c'était rencontres annuelles, donc il y avait tout un panel d'experts immobiliers, plutôt sceptique vis-à-vis de tout ce qui venait de, à l'époque, tout ce qui venait de la data, tout ce qui venait de un peu trop digital et des technologies.
Oui.
Et j'étais voilà sur la table ronde avec justement là j'ai vu j'étais pourtant habillé comme aujourd'hui, mais là j'ai vu qu'en fait tout le monde me voyait comme le geek à capuche, alors que je ne code extrêmement mal. Je n'ai aucune compétence là-dedans.
Et vous ne savez pas jouer au baby-foot.
Et je suis nullissime au baby-foot. donc là, j'ai compris aussi la vision que pouvait avoir le monde de l'immobilier, enfin, certaines parties du monde de l'immobilier d'une boîte comme Priceable qui se lance dans la data. Et le gros sujet à ce moment-là, ça a été un peu un déclic de se dire il faut énormément travailler sur la pédagogie et sur le rôle. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Notre sujet, c'est absolument pas de remplacer des métiers, hein, d'experts immobiliers, d'agents immobiliers. C'est absolument pas notre sujet. Notre sujet, c'est d'avoir un échange constructif avec ce monde-là et de leur dire comment est-ce que le digital peut vous aider à aller plus vite, à avoir plus de clients, etc.
Lois, il n'y a plus de débat. Quand on a créé Prince PropTech, vous le savez, vous êtes adhérent d'ailleurs du mouvement.
On est adhérent, bien sûr.
Oui, adhérent du mouvement. Vous savez qu'on prépare pas mal de choses là en ce moment. Il n'y a plus de débat maintenant. La conversion digitale, elle est faite. Simplement, c'est un problème, en fait, qui est lié... parce qu'on peut s'interroger, d'ailleurs, là-dessus. C'est pourquoi, par exemple, la fintech ou d'autres métiers ont eu beaucoup plus de rapidité sur cette conversion digitale par rapport à l'immobilier. Tout simplement parce que l'immobilier, sans faire trop de travaux, ça marchait plutôt pas mal. Et donc, ça a anesthésié les capacités créatives d'innovation, etc. On l'a bien observé. Et c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment d'un point de vue anthropologique, finalement. Parce que ça réveille, finalement, des personnes qui ont été complètement ébranlées dans leur certitude. Vous savez, cette illusion de la prospérité permanente. On se rend compte qu'un petit virus invisible a mis à genoux toutes les économies mondiales. Donc c'est intéressant, la mise en relief de la fragilité de nos conditions. C'est ça qui est intéressant. Et donc dans l'acte de conversion digitale, dans l'innovation, il y a aussi la prise en compte de la temporalité. Je pense que c'est un élément extrêmement intéressant. On va avancer, Johanna. On a les personnages, justement.
Exactement. Alors, on va commencer par une liste d'hommes qui sont comme vous, livres de feu. Puis à vous de nous dire celui qui vous inspire
Sinatra,
le plus, évidemment. Mais il y en a d'autres, alors sait-on jamais, je vais quand même vous les citer dans le doute. On a Sting, Christian Lacroix, David Beckham, Fabrice Luchini
quand même.
Et Frank Sinatra.
Ah, on va partir sur Sinatra quand même, le clin d'œil est trop bon.
C'est le boss.
Et chez les femmes, on a Angelina Jolie, Billie Holiday, Élise Lucet, Eva Longoria et Kate Winslet.
Billie Holiday, c'est
quand même. Bravo, voilà.
Évidemment.
Voilà. Tu sais quoi? Open bar chez Radio Imo. Voilà, vous notez open bar. Voilà.
Avec une playlist de jazz.
Oui, tu sais, Billie Holiday, c'est... Est-ce que tu connais ce titre qui s'appelle Lady in Satin?
Oui, satin. Bien sûr.
Magnifique, magnifique. Une femme extraordinaire. J'aime beaucoup. Tu connais forcément?
Évidemment.
Ah bah, alors, on enchaîne.
Je crois qu'il y a un très beau film d'ailleurs qui sort.
Absolument.
Sur Billie Holiday.
Alors, Johanna, il faut savoir que c'est un être venu d'ailleurs. Elle n'est pas de ce monde. Parce que si on lui pose une question sur Joe Dassin, par exemple, elle a 26 ans, hein, sur Joe Dassin, incollable.
Et elle chante.
Et non, elle chante. Non,
Évidemment.
Oui.
C'est dans le package.
Elle chante. Elle connaît Joe Dassin. Elle maîtrise complètement la chronologie et la biographie de Claude Nougaro. Et elle est championne de France de paradressage en équitation. Enfin, voilà. Et elle remet son titre en jeu dans 15 jours. C'est bien ça ?
Peut-être bien.
Voilà. Et les Jeux Olympiques ? Dans combien de temps, les Jeux Olympiques ?
Dans une dizaine de mois.
Ah là !
Et ce sera les Jeux Paralympiques.
Non, mais tu sais quoi, on recrute chez Elite. On recrute chez Elite, la web radio édition.
On va plutôt parler de Loïs, si vous voulez bien. Je pense que c'est tellement plus intéressant. Et on va écouter un deuxième témoignage. Un ami, cette fois, dont vous nous avez donné les coordonnées et qui a également été contacté par Nicolas Tarra.
Est-ce que je peux me permettre une question, Loïs ?
Allez-y.
Pourquoi on n'a pas eu Camille au téléphone ?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
Ou appeler Anatole, papa.
Il ne parle pas encore, malheureusement.
Non. Alors, pourquoi ?
Pourquoi il ne parle pas encore ?
Non, mais pourquoi Camille n'est... Pourquoi elle n'a pas voulu ?
Non, c'est... Je suis resté dans le cercle...
Des poètes disparus. Non, d'accord. Donc, vous avez dit non, je vais...
Il y a son frère.
Bon. Donc, moi, ça va, alors.
Okay. C'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, on va écouter Antoine Espinet, qui est l'un de vos amis, Nicolas Tarade. Donc, là, appelé, on écoute, on en parle juste après.
Antoine, bonjour.
Bonjour.
Comment vous êtes connu avec Monsieur Bordic ?
On s'est connu en prépa. On était à Nantes. Et je me souviens très bien du premier jour, puisque Loïs était assis au premier rang. Et il avait caché tout le tableau, tellement il avait de cheveux, je me souviens très bien. Et donc, on a fait nos deux ans en prépa ensemble. Et ce qui m'a frappé avec Loïs, c'était qu'il avait toujours une approche très, très relâchée, malgré qu'il était dans les meilleurs en maths, et aussi en français, et aussi en langue, et aussi en physique, etc. Mais toujours très relâché, il avait même le temps de... d'avoir des copines, donc voilà, on a fait nos deux ans de prépa ensemble.
Bah du coup Antoine, depuis ces années prépa, il a dû s'en passer, des histoires, des petites anecdotes, est-ce que vous pouvez nous en raconter peut-être une parmi d'autres ?
À un moment, Loïs et moi, on avait un petit peu collaboré sur le concept d'un algorithme que Loïs avait développé, qui à l'époque s'appelait REPA. REPA, donc Real Estate Predictive Analytics. Et donc, on regardait un petit peu pour pour continuer le développement de cet algorithme. Il me semble que c'était en Bulgarie à l'époque. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, REPA en bulgare, ça veut dire c'est un navet, mais c'est surtout un mot familier pour le phallus. Et donc, voilà, on a dû changer le nom de REPA assez rapidement.
Alors Antoine, je vais vous laisser le micro. Pour cette troisième question, Loïs est avec nous ce vendredi matin dans le Mac de Limo sur Radio Imo. Il est à côté de nous. Il vous écoute en ce moment même. Je vous en prie, prenez le micro, adressez-lui un message.
Eh ben, je lui dis qu'on l'attend à Londres et que ma femme, moi-même et la collection de whisky l'attendent de pied ferme. Voilà.
Ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Antoine.
Voilà, merci.
Amateur de whisky, Loïs ?
Non, Antoine, oui.
Antoine. Il n'est pas le technicien, là. Oui,
ben, non.
Non, il a fait juste la prépa.
Il a fait Central Paris.
Ah, ouais. Il a fait que Central. Mais oui, effectivement.
Franchement, c'est moyen.
Oui, non, mais c'est Central. C'est pas grave. On lui pardonne.
Mais lui, c'était du premier coup.
Ah oui. Alors, justement, les cheveux, c'est vrai, ça ?
C'est vrai.
Belle tignasse.
Une Jackson 5.
Et donc, c'est extraordinaire. Ça, en bulgare, le répa, ça veut dire.
C'est ça,
le manche gourdin.
Exactement.
Incroyable, vous ne le saviez pas ça ?
Ah bah non, ça vous le découvrez, c'est très important quand vous lancez...
Non mais c'est incroyable, vous lancez un outil en Bulgarie avec un nom que ça
s'appelle
REPA.
Alors ce n'est pas lancé en Bulgarie, c'était là on cherchait pour des développeurs front-end et ils nous ont fait ce retour-là et on s'est dit ah... Donc c'est toujours important de faire une petite, même une grosse vérification du nom de la boîte que vous lancez si vous voulez vous lancer à l'international.
Vous savez quoi, ça me rappelle une anecdote. J'ai de la famille en Israël et qui a une branche aux États-Unis, en Arizona, voilà, à Phoenix en Arizona, et qui ne parle pas l'hébreu. Et donc il y a un des fils de la branche américaine qui lance une collection vêtements qui s'appelle Zona. En anglais, pas de problème. Sauf que Zona, en hébreu, quand il a voulu exporter, ça veut dire prostituée. Il a juste un problème.
Mauvais choix.
Il a très mauvais choix. Mais attends, le pire que ça, c'est qu'il a fait une collection et qu'il s'est pointé en Israël pour essayer de la vendre. Ça a été une catastrophe absolue, incroyable. Mais c'est marrant les choses, parce que tout ça, il n'est pas du tout... quand vous en êtes rendu compte, vous êtes un peu marré ou ça a été un peu...
Oui, ça nous a fait rigoler.
Ah oui, quand même, hein, c'est pas
on
mal.
On n'avait pas la Bulgarie immédiatement sur la liste des pays.
C'est clair. On enchaîne.
Le temps passe vite. Hein,
passionnant.
Le temps passe très très vite. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas, Loïs?
Rien, non, non.
Alors, c'est une excellente question.
Pas de pêche, pas de bateau.
La mer est loin.
Donc, je ne peux pas vous emmener, quand je suis à Erquy, je ne peux pas vous emmener à la pêche.
On n'est pas très loin.
Hein.
Je vais pas contribuer beaucoup à la godaille.
Non, mais je vous apprendrai à pêcher, ne vous inquiétez pas.
Tout va bien. Écoutez, c'est une excellente question. J'aime faire énormément de choses, mais...
La passion.
Alors j'aimerais faire plus de sport.
C'est le surf qui vous manque?
Alors le surf, j'en parle plus. Ça fait trop longtemps que je suis parti de Bretagne. Je me suis lancé un petit peu dans le triathlon il y a quelques temps, mais c'est très chronophage, donc compliqué d'avoir un enfant en bas âge, un boulot très prenant et de faire ça. Et on passait à Mingus tout à l'heure. J'ai fait énormément de sax dans mes jeunes années, notamment ce morceau de Mingus. Donc,
saxo.
Exactement. Donc c'est une des choses...
Il est à la maison.
Il est à la maison, mais malheureusement, il prend la poussière. Et c'est une des choses...
Si je l'avais su, je l'aurais fait venir.
J'aimerais passer plus de temps.
Je l'aurais fait venir. Johanna.
Mais du coup, vous allez au puce. Parce que là, vous venez de nous dire tout ce que vous auriez aimé faire.
C'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais lorsque j'ai un peu de temps devant moi. Et malheureusement, le temps libre est assez limité sur les dernières années.
Ce serait sympa de reprendre le saxophone, non?
Ce serait très sympa.
Alors, on va écouter un témoignage, le dernier témoignage.
Voilà. Eh bien oui, on peut l'écouter tout de suite. Vous nous l'avez un peu teasé tout à l'heure, hein, c'est le témoignage de votre beau-frère.
Beau-frère, ami beau-frère.
C'est ça.
Voilà, ami avant ou...
Non, beau-frère avant.
Ah, beau-frère avant. Il s'appelle Antoine Espinet.
Non, ça c'était l'autre.
Non, il s'appelle Jocelyn Petit Ohang.
Oui, le nom c'est...
C'est le nom de ma femme, c'est Petit Ohang, avec des origines vietnamiennes.
Extra, ça va faire un mélange magnifique. Ouais, qu'on voit la
vous,
photo
parlez de... vous parlez de Jocelyn.
Ouais, oui, on va surtout voir la photo d'Anatole aussi, j'espère. Le petit Anatole, qui a deux ans.
Je ne sais pas si c'est prévu, ça.
Vous êtes très pudique, hein, monsieur Bourdic.
Je suis discret.
Finalement, il est discret. On écoute.
On écoute.
Jocelyn, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous raconter la première rencontre, la première fois où vous avez vu Loïs passer le pas de la porte?
Eh bien, Loïs, pour moi, c'est mon beau-frère. Donc, une des premières fois où je l'ai vu, c'est quand il commençait à voir ma sœur. Et c'est tout de suite été, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un d'hyper sympa, d'hyper agréable, d'hyper souriant. Et vraiment la première fois où on a vraiment échangé, c'est qu'assez rapidement, moi à l'époque, il y a assez longtemps, je cherchais un sage et il a été hyper sympa, il s'est démené comme un fou pour me mettre en contact avec des gens de son réseau. Et finalement, ça m'a permis moi d'obtenir un stage avec une personne qu'il connaissait. Donc ça a été vraiment une des premières fois où Loïs et moi avons été en contact. Donc j'étais vraiment bluffé dès le début.
Et du coup, est-ce que vous avez peut-être une petite histoire, une petite anecdote à nous faire partager?
Ouais, bien sûr. En fait, il y a quelque chose que Loïs adore plus que tout dans la vie, c'est cuisiner et bien manger. Donc c'est vraiment un fin gourmet. Et Loïs a grandi en Bretagne. Donc une de ses spécialités culinaires qu'il adore faire, c'est les crêpes bretonnes. Et ce qui est assez marrant, c'est que chez lui à Paris, il a un appareil, ce qu'on appelle un bilic. Donc c'est un grand appareil pour faire des crêpes, comme dans les restaurants, les crêperies. Et donc il les fait divinement bien. Donc on est souvent convié chez lui pour goûter ces crêpes qu'il fait. Mais par contre, quand il est absent, on a une interdiction formelle de toucher au bilic, à cette machine, parce qu'il n'y a que lui apparemment qui est capable de l'utiliser à 100% de ses capacités. Donc on a vraiment pas le droit d'y toucher. Donc c'est assez marrant.
Bon, je vais vous laisser le micro, Jocelyn. Je vais me mettre un peu en retrait, puis je vais laisser vous adresser directement à Loïs. Il vous écoute là en ce moment. On est vendredi matin, on est dans le Mac de l'IMO, toujours sur Radio IMO. Eh bien, allez, je vous laisse la parole. Adressez-vous à lui.
Eh bien, écoute, salut Loïs. Je sais que tu es hyper occupé tous les jours de la semaine à révolutionner le marché de l'immobilier, à essayer d'apporter de nouvelles solutions, des nouvelles technologies à ce marché. Et je sais que ça marche hyper fort pour toi et que ça avance hyper bien et je suis hyper fier de ce que tu fais. Mais je t'attends toujours sur ton vélo le week-end pour aller faire des kilomètres autour de Paris et profiter d'une bonne bière à l'arrivée au bord de la Marne.
Et ben voilà, le message est passé. Le message est passé, la balade à vélo. Eh bien écoutez, voilà. Jocelyn, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur Radio Immo.
Ça fait beaucoup d'invitations tout ça, hein, entre le barbecue, le vélo.
C'est compliqué avec le couvre-feu.
Il a carrément l'appareil. Tu pourrais faire ça pour gagner de la vie, quoi.
Mes parents ont fait ça. J'ai grandi. Mes parents ont fait ça comme passe-temps d'avoir une crêperie. Donc j'ai grandi là-dedans.
Ouais. Crêpe avec sarrasin, tout ce qui va avec.
Les vrais.
Salé, sucré.
C'est ça.
Et dans les
la crêpe Bigouden.
Alors et la technique là, il faut la maîtriser.
Et le rosel.
Il y a une école qui fait ça. Et là, tu maîtrises sans problème. Ok, quand est-ce qu'on vient manger?
Tu peux amener le bilic ici. Hein.
Ah oui, promis.
Ça, par contre, ça va.
Non, mais on pourrait faire un truc sympa, on va s'arranger, on va trouver une solution. Ensuite,
que vous organisez votre soirée crêpe, moi, en écoutant le témoignage de Jocelyn et son anecdote qui est assez amusante, vous êtes du genre à aller marquer des points tout de suite très fort avec la belle famille?
Il est très sympa, Jocelyn, quand même.
Oui, il est très sympa, c'est devenu un ami. Non, c'est j'aime quand les choses se passent bien et se passent simplement. Ouais, se passe bien et simplement. Donc non, c'est pas une histoire de marquer des points ou de. Là, on n'est pas dans la vente.
C'est vrai que mon cher Loïs, vous faites très propre sur vous, quoi, pour dire la vérité. Vous êtes le gendre idéal. Vous avez quoi, 33 ans, polytechnicien, directeur général de Priceable. Enfin bref, c'est le tiercé gagnant. C'est l'appartement témoin, en fait. Non, mais je caricature, on se connaît un peu
l'appartement
déjà.
L'appartement témoin, c'est juste au début. Hein. Ouais,
oui,
il faut faire gaffe à la suite. Hein.
Oui, justement.
Il n'est pas branché, l'appartement témoin.
Ce qui est bien, c'est voilà, pas l'arrogance. Pas arrogant. Pas
non, parce que c'est le pire des défauts, je pense. Vis-à-vis des gens, vis-à-vis du...
Est-ce que vous avez conscience de la chance que vous avez aussi?
Tout à fait, tout à fait. Je suis conscient du parcours, de la chance que j'ai eue, des personnes que j'ai pu rencontrer. Donc là-dessus, ça n'est même pas un sujet. Il faut en être conscient et faut être conscient des responsabilités et des devoirs que ça fait émerger.
Alors on va vous livrer parce que nous, voilà, ça fait déjà 53 minutes que nous sommes ensemble. Ça passe vite, hein. Alors justement, on va se quitter sur un morceau que vous avez choisi. On va se quitter sur un morceau de Bob Marley. Hein. On n'a pas fait passer tous les morceaux, mais celui-là, j'y tiens particulièrement. Mais on va vous laisser un peu moins d'une minute parce que c'est vous qui allez faire la conclusion. Nous, on va vous saluer voilà, bien chaleureusement en attendant les crêpes. Et vous allez faire la conclusion. Je vais vous laisser un peu moins d'une minute. Voilà. Vous allez tenir comme ça le micro. Vous adressez aux auditeurs, vous avez votre caméra ici, vous êtes ici à l'image. Vous avez le droit de dire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser des adjectifs, des phrases, etc. Dire aux gens que vous les aimez, et bien vous pouvez aussi le faire. En tout cas, Johanna, on a été ravis de passer ce moment avec Loïs Bordic.
Tout à fait.
Tout à fait.
Vous êtes tout à fait.
Voilà, on va vous souhaiter en tout cas longue vie pour Priceable. Nous, on va se revoir souvent sur les salons, les conventions, etc. En tout cas, revenez nous voir souvent sur Radio Immo. C'est un vrai plaisir de vous avoir. C'est à vous la parole.
Est-ce qu'on en profite juste avant cela pour annoncer ce qui vient quand même?
Oui, bien sûr.
Après cette séquence Grand Témoin, Allo Radio Immo, à partir de 9h jusqu'à 9h30.
Nouvelle formule
avec notre panel d'experts. À 11h, on signale aussi le retour de la semaine CoPro, hein, le nouveau magazine dédié aux gestionnaires de copropriété. Et puis également un petit événement à venir dans la journée. Sylvain, vous serez à Deauville avec l'UNIS.
Oui, parce que je reviens de Lyon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais avec le Figaro hier. On a fait un très, très joli enregistrement qui sera diffusé le 22 octobre. Et ensuite, on se retrouvera ce soir à l'hôtel Normandie Barrière pour la convention de l'UNIS. Vous connaissez l'UNIS, hein, c'est un des trois syndicats majeurs de l'immobilier. Et j'aurai le plaisir d'animer une partie de leur convention. Et je reste à Deauville parce que demain, je vais chez mon ami Augusto manger des homards. Voilà.
Voilà, bon, en tout cas, Radio Imo sera à la convention de Lumis ce soir. Pour
moi
le
aussi.
Reste, on vous laisse gérer. Merci beaucoup.
Merci à vous, Loïs.
Merci beaucoup pour l'invitation également. C'est un plaisir ce matin d'échanger. Merci aussi de façon un peu plus générale de faire le lien et le lien au sein du monde de l'immobilier, surtout en ces temps où on se voit un peu moins, on se croise un peu moins, on se serre un peu moins la main, on se croise, on n'a plus ces salons pour se rencontrer et échanger. Donc c'est vraiment clé d'avoir ces acteurs de lien dans l'écosystème pour continuer à faire exister ce monde et en espérant qu'on repasse prochainement au printemps prochain ou à l'été prochain dans un monde un peu plus réel au sens où on va se croiser et voir les gens ressentir un peu les choses mais entre temps voilà c'est essentiel d'avoir des acteurs comme Radio Imo pour avoir faire exister ce monde.
Merci en tout cas, oui, merci. Alors je rajoute, je vais faire une petite entorse à la règle, mais effectivement, je voudrais quand même qu'on ait une pensée, même si effectivement la période est quand même pas facile, pour nos amis restaurateurs et hôteliers, pour tous ceux aujourd'hui qui sont dans la peine et avec que l'on essaye de soutenir. Et notamment, je voudrais annoncer le 5 novembre, la journée Solidarité Logement et la journée de toutes les solidarités qui aura lieu ici avec les compagnons d'Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, des people aussi, des acteurs qui viendront parler du soutien sur le mal-logement. D'ailleurs, je me permettrai de vous solliciter parce qu'il faut aider la Fondation I Love You sous l'égide de la Fondation de France. Merci Loïs.
Merci beaucoup.
À très vite.
De l'IMO, la matinale info et rencontre de Radio IMO, en partenariat avec Agence Réunie, Crédit Advisor, Promi et Opinion System.